bien sûr, M. Rogis et l'association Fleur de Mai de me donner l'occasion. Pour l'oublier, c'est eux qui me donnent l'occasion d'aborder un sujet qui est important entre tous. Bien sûr, les écoles ont une finalité particulière, c'est l'enseignement, mais à travers l'enseignement, c'est l'éducation qui nous est donnée et qui est donnée aux enfants, qui est dispensée aux enfants. Alors je crois capital, eh bien tout simplement, d'examiner ce grand sujet qu'est l'éducation. Qu'est-ce que l'éducation? Sur quoi se base-t-elle? Quelles sont les difficultés que l'on peut rencontrer dans l'éducation? Et s'il y a des difficultés, peut-être y en a-t-il, je pense que vous êtes bien placé pour le savoir, certainement, peut-être mieux que moi, mais enfin j'essaierai quand même de vous en parler. S'il y a des difficultés, donc, il y a toujours des solutions. Alors on va essayer, nous allons essayer ensemble, à travers le magistère de l'Église, de discerner ces différents points. Je crois que c'est important, dans un siècle où toute autorité est bafouée, donc en premier lieu l'autorité de l'Église, donc il est important de revenir à ces paroles, qui sont l'écho des paroles éternelles de notre Seigneur, tout simplement. Le magistère n'est rien d'autre que l'écho de la parole de notre Seigneur. Alors en fait, nous allons suivre un bon guide, nous allons nous mettre, j'allais dire, à l'imitation de notre Seigneur pour savoir ce qu'est l'éducation. Le titre de la conférence, vous l'avez certainement vu, je vais peut-être me déplacer quelques secondes pour m'excuser. Le titre de la conférence, vous l'avez certainement vu, est un titre assez général, « Former notre Seigneur Jésus-Christ » dans l'âme des enfants. Ça demanderait plus que le temps qui m'est imparti, je crois qu'on m'a donné à peu près une heure, on me dirait si je dépasse, j'essaierai de regarder. Ça demanderait beaucoup de temps, et je pense du reste que ça demandera beaucoup de temps, mais ultérieurement, si vous le voulez bien, car je crois que ce sujet, former notre Seigneur dans l'âme des enfants, demande de notre part, de votre part, toute une préparation. Et c'est ce que dit le magistère. Ça demande de savoir un petit peu quels sont les moyens donnés par l'Église pour atteindre à cette royauté de notre Seigneur dans la société. Car c'est pour cela que nous avons été créés, pour faire régner notre Seigneur dans la société, dans nos familles d'abord, dans notre âme d'abord, ensuite dans nos familles, et puis dans la société. Nous arrivons tout à l'heure à des constats qui laisseront présager de la solution. Alors je reviens au titre, former notre Seigneur dans l'âme des enfants. Simplement d'abord une explication du titre. Un titre demande toujours à être expliqué, car il a une finalité, il a un objet, et il désigne parfois aussi des sujets. Alors bien former tout d'abord, qu'est-ce que c'est? Mais c'est justement contre une certaine passivité. Former, j'allais dire, c'est presque informer. Informer, quand on parle d'information, non pas les médias, parce que vous n'entendez pas ce terme-là, quand on parle d'information, c'est donner à quelque chose une forme, comme un sculpteur, quand il se trouve devant une pierre, mettons à Léonard de Vinci, qui se trouve devant du marbre de Carrare, c'est quelque chose d'informe. Il y a un grand bloc de pierre qui a été extrait des carrières. Alors il va le sculpter. Donc il faut une action bien précise. Celui qui veut concevoir une œuvre l'a déjà dans sa tête. Lorsque Léonard de Vinci voulait faire la Pietà, eh bien il l'avait dans son esprit. Donc c'est ça, former. Former notre Seigneur, c'est une action qui demande donc des règles précises. Imaginons Léonard de Vinci s'attaquant à des œuvres, ou quelque artiste que ce soit s'attaquant à une œuvre sans savoir comment il va faire, sans savoir à quels instruments il va recourir, il n'arrivera à rien. Il n'arrivera à rien. Former. Former quoi? En qui? Former notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien là, ça nous replace simplement devant la finalité, notre finalité, la finalité des enfants. C'est le catéchisme élémentaire. Pourquoi avons-nous été créés? Tous vous pourriez répondre en même temps, nous avons été créés pour Dieu. Simplement. tout simplement humblement, nous avons été créés pour Dieu, pour la béatitude. Et voilà ce que nous avons à faire. L'éducation, à la limite, devrait avoir pour charte les béatitudes. L'enseignement de notre Seigneur sur le monde des béatitudes, bienheureux les pauvres en esprit, bienheureux les doux, bienheureux les cœurs purs, bienheureux les miséricordieux, bienheureux ceux qui souffrent pour la justice, bienheureux ceux qui ont faim et soif pour la justice, c'est-à-dire la sainteté, bienheureux les pacifiques, c'est-à-dire ceux qui cherchent à donner la paix dans les âmes et dans la société. Voilà la finalité. Et puis enfin, il y a un sujet qui va reformer notre Seigneur, c'est dans l'âme des enfants. Dans l'âme des enfants. C'est un sujet, on pourrait prendre une comparaison qui explique un petit peu ces différentes choses. Certainement, vous avez déjà vu des lettres qui sont cachetées. Une lettre. C'est tout simple. Un cachet de cire. C'est facile. Un cachet de cire. Alors, si on essaye de comprendre un petit peu mieux ce que nous avons dit, on peut voir donc la lettre. Qu'est-ce que la lettre? On peut l'accompagner à l'enfant. L'enfant qui a une destinée. La lettre d'ordinaire, on l'envoie à quelqu'un. Tout simplement. Seulement, il faut imprimer le destinataire sur la lettre. Eh bien, c'est le cachet. Le cachet. Un cachet de cire. Mais un cachet de cire, lorsqu'on prend de la cire, vous avez déjà remarqué, il faut la faire fondre, donc il faut la préparer. Il faut qu'elle soit adaptée pour recevoir le cachet. Si ça n'est pas de la cire, si c'est une pierre, on ne pourra pas lui imprimer une forme. Si la cire est trop fondue, elle ne se prêtera pas à l'action du sceau. Non, il faut vraiment bien préparer la cire pour qu'elle reçoive l'action du sceau. Et le sceau lui-même, s'il est frappé trop fort, il y a des bavures. S'il est frappé trop légèrement, on n'en voit pas la trace. Donc il y a tout un équilibre. Voilà un peu pour l'explication du titre. Alors si vous voulez bien, nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet et essayer de le discerner en trois parties. Tout d'abord, voir quels sont les principes de l'éducation. Quand on achète un appareil ménager, ou, je ne sais pas, un appareil électronique, d'ordinaire, on achète avec l'appareil un mode d'emploi. Sans le mode d'emploi, parfois on est bien perdu, on ne sait pas comment faire. Eh bien, pour l'éducation, il y a un mode d'emploi. Il y a des principes bien précis qui nous permettent de trouver comment et pourquoi faire telle chose au lieu d'une autre. Ensuite, après avoir vu les principes nécessaires, à la lumière toujours du magistère, nous essaierons de discerner qu'est-ce que l'œuvre d'éducation. Et ceci en deux points, qui se subdiviseront quelque peu, mais nous verrons au cours du sujet. En deux points, tout d'abord, nous allons voir ce qui se passe dans le monde moderne, dans le monde dans lequel nous sommes livrés, parce qu'il faut toujours tenir compte des circonstances. Et puis, ensuite, bien savoir qu'est-ce qu'il faut faire dans ces circonstances. C'est comme je le disais tout à l'heure, la position du problème, et ensuite simplement discerner la solution. Revenons donc à cette première partie, les principes nécessaires à l'éducation. Ici, je me baserai simplement sur cette encyclique que vous connaissez certainement. Si vous ne l'avez pas lue, je vous encourage fortement à la lire, c'est l'encyclique de Pie XI sur l'éducation chrétienne des enfants, Divini Eius Magistris. C'est une très belle encyclique qui vous donnera, qui vous a peut-être déjà donné, toute la matière nécessaire à bien pourvoir à l'éducation des enfants. Alors, écoutons le pape Pie IX nous dire ce qu'il entend par l'éducation. Il ne faut jamais perdre de vue que l'éducation chrétienne concerne l'homme, l'homme tout entier. Un esprit joint à un corps, dans l'unité de nature, avec toutes ses facultés naturelles et surnaturelles, telles que nous le font connaître la raison et la révélation. Toutefois, c'est aussi l'homme déchu de son état originel, donc le péché originel, mais racheté par le Christ et rétabli dans sa condition surnaturelle de fils adoptif de Dieu, sans avoir pour autant été rétabli dans ses privilèges préternaturels, d'immortalité de son corps, d'intégrité et d'équilibre de ses inclinations. Subsistent donc dans la nature humaine les effets du péché originel, et en particulier l'affaiblissement de la volonté et le désordre de ses tendances. Nous voyons bien ce qui est donné par l'enseignement de l'Église, être clair, il y a une nature, donc la nature humaine, tout simplement, avec ses facultés, avec toute cette architecture, on pourrait dire, des facultés humaines, en passant par les facultés les plus élevées, l'intelligence et la volonté, jusqu'aux facultés inférieures et sensibles, sur lesquelles nous reviendrons tout à l'heure. Mais s'il y a une nature, il ne faut pas oublier que cette nature n'est pas une nature pure. Le bon sauvage de Rousseau n'existe pas. Désolé, il n'existe pas. La nature pure n'existe pas. Ce qui existe, aujourd'hui, maintenant, ce que nous avons en face de nous, quand il y a un petit enfant qui pleure, qui fait des caprices, c'est une nature déchue, donc qui a été blessée par le péché originel, mais qui a été rachetée. Donc, qui a, malgré ses blessures, la possibilité de les soigner. La possibilité, non seulement de les soigner, mais de développer sur cette nature déchue tout le cortège de la grâce et des dons et des vertus. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire que nous avons devant nous. Les petits-enfants, avec tous leurs caprices, avec tous leurs défauts, avec tout leur tempérament, parfois difficile à manier, vous le savez par expérience, sont cependant des enfants, des âmes, appelés à la béatitude, appelés à recevoir sur ses facultés blessées le baume de la grâce. Non seulement le baume de la grâce, mais la vie de Dieu. C'est quelque chose d'extraordinaire pour l'éducation. Alors je veux insister un petit peu, si vous permettez, sur le péché originel. Certainement, beaucoup d'entre vous auront suivi les conférences de M. l'abbé Simoulin au début de l'année dernière sur le péché originel. Donc vous aurez, ce sera qu'un rappel pour beaucoup d'entre vous, un rappel assez succinct sur la gravité de cette blessure qui nous a été faite. Vous savez que cette blessure du péché originel, comme le dit saint Thomas, affecte l'homme tout entier. Enfin, il n'y a rien à faire. On est obligé de passer par là, l'homme n'est plus ce qu'il était. Nous ne sommes plus des descendants d'un Adam, avec tous ses noms prêtés naturels, nous sommes descendants de celui qui a fauté avec Ève, de nos premiers parents qui se sont coupés de Dieu au début de la création. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire tout simplement que dans cette nature humaine que nous avons, je parlais tout à l'heure d'intelligence et de volonté, il y a des déficiences. Je crois qu'on peut parler tous d'expérience. Pour l'intelligence, c'est facile à le voir, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance, nous avons à apprendre, nous devons apprendre. Nous avons tous passé sur les bancs d'école, souvent nous avons oublié ce que nous avons appris, nous avons essayé de réapprendre, nous avons oublié. C'est une expérience quotidienne, il faut toujours se remettre pour apprendre. Et bien voilà, conséquence du péché originel, l'ignorance. L'ignorance, et parfois l'aveuglement. Pour la volonté, il suffit de faire un retour sur nous-mêmes aussi. La volonté a été blessée par ce que l'on appelle la blessure de malice. C'est-à-dire qu'elle n'est plus droite, la volonté. Il suffit de voir un petit enfant, encore une fois, je reviens sur des exemples bien concrets. On lui demande de ne pas aller vers le fourneau. Là, les mamans sont tout à fait d'accord, parce que les fourneaux avec les petits boutons en tirent, les enfants, toujours, il faut tapoter sur les boutons pour avoir des lumières clignoter. On lui demande de ne pas le faire. La maman tombe le dos pour battre la crème. Le petit se retourne vers les autres fourneaux et essaye de le faire. Donc il y a radicalement une volonté de désobéir. Même si ça n'est pas conscient chez l'enfant, il y a cette faculté d'échapper à l'autorité, faculté d'échapper au bien, qui est l'objet propre de la volonté. Voilà pour la volonté, elle est blessée par la malice. Et puis il y a les facultés inférieures. Je le disais tout à l'heure, notre nature est très riche. Est très riche, malgré sa blessure. Elle est extraordinairement riche. Elle nous fait tendre vers le bien. Le bien qui nous est présenté par la vérité, donc la vérité c'est l'intelligence, et le bien nous est présenté à la volonté. Mais pour les facultés inférieures, qui sont le concupiscible c'est bien simple, c'est un mot qui fait un petit peu peur parfois, qui est un peu compliqué, mais qui signifie simplement que notre nature est faite pour le bien. Tout homme cherche le bonheur. Parfois on se trompe, c'est sûr, mais tout homme est fait pour le bonheur. C'est certain. Donc nous recherchons toujours notre bonheur. Seulement on peut se tromper. Et c'est là qu'intervient cette blessure qui grève le concupiscible, qui est en soi une faculté bonne, mais cette blessure qui est mauvaise et qui est la concupiscence. Donc qui attire l'homme vers les choses inférieures, tout simplement. Et puis il y a encore cette autre faculté de notre nature, qui est ce qu'on appelle l'irascible. C'est aussi un nom compliqué, mais qui veut dire simplement que dans notre nature, nous avons la faculté de vaincre les obstacles. Un petit enfant, si on lui demande de faire des efforts, avec l'aide de papa ou maman, parfois, qui passe par le moyen de... Oui, par le moyen sensible, qui lui font comprendre un petit peu mieux ce qu'il faut faire. Un petit enfant arrive parfois à se dominer, à passer par-dessus les obstacles, à dominer sa nature, à dominer les difficultés. Eh bien, c'est simplement la faculté de l'irascible. Donc, faire des efforts, passer par-dessus. Eh bien, cette faculté est aussi blessée. C'est la faiblesse. Les petits enfants, nous-mêmes, quand on dit simplement je ne vais pas leur dire, j'arrive pas, je ne veux pas, c'est trop dur pour moi. C'est simplement une application pratique de cette blessure d'irascible. N'arrive pas, on se décourage, on baisse les bras. Alors voilà ce qu'est notre nature. C'est une nature blessée. Il est important de signaler une autre chose, c'est que toute cette architecture de notre nature, qui est extraordinaire, nous est préparée pour les facultés supérieures. Donc, nos sens même nous sont donnés par le bon Dieu pour nous permettre d'aller plus haut. Et c'est un grand principe de notre nature, c'est que notre connaissance même vient par les sens. Là maintenant, c'est une application pratique. Ou lorsque nous étions à l'école, c'est facile de le voir, ça vient par les sens, on entend. On entend quelque chose, ce sont des sons. En soi, qu'est-ce que c'est que la parole? La parole, c'est simplement ce sont des vibrations de l'air, mais qui s'adressent à notre intelligence, mais par le moyen de l'oreille. Si je faisais des dessins au tableau pour expliquer quelque chose, comme le faisaient nos instituteurs, eh bien, ce sont des choses qui frappent notre vue. Ça passe par cet organe visuel, mais ça va plus loin, ça va dans l'intelligence. Et bien seulement, cette connaissance qui nous vient des sens est déstabilisée aussi, de par le dérèglement des sens. C'est peut-être un petit peu compliqué, un petit peu fastidieux ce que je viens de dire, mais je crois que c'est assez important de voir qu'il y a cette blessure de nos facultés, et donc qui empêche les facultés supérieures de réaliser ce pourquoi elles sont faites. Voilà, pour cette nature humaine. Restons toujours dans le péché originel. Les conséquences plus proches du péché originel pour nous, c'est le monde qui nous entoure, le monde moderne. Le monde moderne est une négation du péché originel. Négation totale du péché originel. Pourquoi? Parce qu'à l'origine, l'homme était totalement ordonné à Dieu. Adam obéissait à Dieu, obéissait au commandement de Dieu. Ses facultés inférieures obéissaient à la raison, qui elle-même obéissait à la foi. Et la foi était soumise au bon Dieu. Il y avait tout un monde qui conduisait l'homme vers Dieu. Le monde moderne, c'est l'indépendance totale vis-à-vis de Dieu. Je crois qu'il n'y a pas besoin de s'étendre longtemps là-dessus. L'indépendance totale vis-à-vis de Dieu, l'abolition de toute autorité, qu'elle soit parentale, qu'elle soit l'autorité religieuse, que ce soit l'autorité dans la société, avec les conséquences, la destruction de la famille. Non seulement c'est un monde un peu à l'envers, mais c'est un monde qui veut pervertir et qui est fait pour pervertir. Il y a tout l'enseignement même du magistère qui nous le dit. Je vous citerai quelques petits passages tirés du pape Pie VII. C'était quelque temps après la Révolution, mais ça continue maintenant. Voici ce qu'il disait. « C'est à corrompre et empoisonner ces tendres âmes que tendent tous les efforts de ceux qui ont juré la ruine de tout le bien privé et public. L'anéantissement de tous les droits divins et humains. Ils savent bien, en effet, que cette âme est une survole et maniable, aussi facile à recevoir toute espèce de forme que l'âge suivant, donc l'âge adulte, l'âge nu, est obstiné à garder celle qu'elle a une fois prise. Et là, il se réfère à une parole des Saintes Écritures, le jeune homme suit sa première foi. On le voit dans le monde de l'agriculture, lorsqu'il y a un arbre qui est penché, qui a reçu une tuteur, on a beau tirer toutes nos forces, à moins de le déraciner, il n'en reviendra pas droit. C'est simplement ce que dit la Sainte Écriture. Le jeune homme suit sa première voie, dans sa vieillesse même, il ne le quittera point. Voilà, donc il y a, notre monde veut nous entraîner hors de la dépendance de Dieu. Voilà un peu les conséquences du péché originel. Je ne m'attarde pas sur ces conséquences. Je veux quand même en venir à la grâce, parce que s'il n'y avait que le péché originel, ce qui est un peu le cas des protestants, qui n'ont malheureusement pas la possibilité de comprendre que cette grâce non seulement nous enveloppe, mais qu'elle est à l'intérieur de notre âme même. Qu'est-ce que la grâce? On l'a dit tout à l'heure, c'est la vie de Dieu en nous. Donc, cette vie de Dieu, à travers les vertus, à travers les plus hautes vertus, les vertus théologales, foi, espérance et charité, va soigner toute cette nature humaine blessée. Elle va l'élever, elle va la faire tendre vers cette béatitude qui est la fin de l'homme. Et voilà la grandeur de ces enfants qui nous sont confiés. Il y a le péché originel, ces blessures, il y a le monde moderne qui veut les attirer, il y a des corrupteurs, il suffit d'ouvrir les yeux dans le monde d'aujourd'hui, mais il y a la grâce. Et Dieu merci. Qu'est-ce que nous ferions sans la grâce? C'est l'enseignement de la fin du premier passage de l'évangile de Saint Jean. Tous ceux qui reçurent notre Seigneur, eh bien à tout cela, notre Seigneur leur a donné le pouvoir de devenir enfants, de devenir enfants de Dieu. Tous ceux qui ne sont pas nés du sang, ni de la chair, ni de l'homme, mais qui sont nés de Dieu. Eh bien, c'est le cas de ces enfants. Alors, venons-en à la deuxième partie, qui est quand même, j'espère, un petit peu plus attrayante, quoique nous allons tout à l'heure revenir sur quelques problèmes du monde moderne. Mais venons alors à cette œuvre d'éducation qui nous est confiée. Je veux ici vous citer un passage de Léon XII, qui lui-même se reportait à Saint Augustin. Quelle discussion, quelle doctrine des philosophes, quelle loi d'une nation quelconque peuvent être comparées à ces deux préceptes que le Christ a dit, qui nous a donné, et qui renferment toute la loi et les prophètes? Vous le connaissez, ces deux préceptes, ce sont les préceptes de la charité, les préceptes de la loi évangélique, donc les préceptes de l'amour que Dieu nous a donné, a mis dans nos âmes par le Saint-Esprit. Là, poursuit saint Augustin, là se trouve le salut et la gloire de l'État, car la cité n'est bien fondée ni bien gardée si elle n'a pour base et pour lien la foi et une solide union. Ce qui s'obtient quand on aime le bien commun, c'est-à-dire Dieu, Dieu le véritable et souverain bien, et quand les hommes s'aiment sincèrement les uns les autres à cause de Dieu, ils s'aiment à cause de Dieu et à Dieu. Ils ne peuvent cacher le motif de cet amour. C'est magnifique. Eh bien, c'est l'enjeu de l'éducation. L'enjeu de l'éducation, nous l'avons vu, c'est la charité. La charité, quel est l'enjeu de la charité? C'est la société. C'est la paix, l'ordre dans la société. Le règne social de notre Seigneur sur les âmes, sur les cités, sur les familles, tout simplement. Voilà l'enjeu de l'éducation. Je vais revenir un petit peu sur ce monde moderne. Pour discerner ensuite, à cette lumière, la grandeur de l'éducation. Le monde moderne, je l'ai suggéré tout à l'heure, se caractérise par une civilisation du loisir, de la facilité, de la paresse, du confort, du matérialisme, qui contredit simplement les béatitudes. Bienheureux les pauvres en esprit, bienheureux les cœurs purs, bienheureux les pacifiques. Nous pourrions à ce propos faire un parallèle entre deux citations de la Sainte Écriture et la situation actuelle. Je vais y passer assez rapidement, mais il faut bien le voir car c'est important. Il faut ouvrir les yeux sur ce que nous avons à faire. La Sainte Écriture nous dit que la foi nous vient par l'oreille, fides ex auditu. Et que si l'œil est mauvais, tout l'organisme de l'homme, tout l'homme est mauvais. Eh bien, regardons notre société actuelle. Vous avez vu certainement dans les journaux, ces derniers temps, qu'il y avait des quantités de choses qui sont données à nos enfants dans les écoles, qui sont proposées à nos enfants par les affiches, qui sont proposées aux enfants par les spots publicitaires, par la télévision, par les bandes dessinées, par la musique. Eh bien, tout cela s'élève contre ces phrases de l'Évangile. Venons-y de manière un petit peu plus précise. Je m'arrête à ce sens qu'est la vue. Télévision, bande dessinée, que font ces deux choses? Elles s'adressent à l'imagination. Et c'est là que je demande un petit peu d'attention. C'est que s'adressant à la seule imagination, elles ne s'adressent qu'à la sensibilité. Ne s'adressant qu'à la sensibilité, elles ne s'adressent qu'à l'animal qui est en nous. Ça n'est pas un programme qui est magnifique. Elles ne s'adressent qu'à ce qui en nous est séparé de la raison, est séparé de Dieu. Et c'est là que c'est très important de le voir, très important de le comprendre pour les chrétiens. La télévision, il peut y avoir des émissions qui soient bonnes. Mais le processus même, ce processus de faire revenir devant les yeux des enfants des images, les filles leur fait acquérir une habitude de n'avoir dans leur esprit que des images. Elles vont passer. De quoi vont parler les enfants de ce qu'ils ont vu. Le contenu intelligible, peu leur importe, mais ils auront vu telle chose, ils auront vu tel spot qui reviendra à leurs yeux comme un flash, comme un éclair. Les bandes dessinées, ça n'est que du sensible. Les enfants voient surtout les dessins, ce qui est marqué à l'intérieur des lieux, parfois ils le passent très allègrement. Et donc on peut leur faire passer des choses très sournoises. Vous l'avez vu dans le Nouvelle-Lise ces derniers temps, une bande dessinée qui est distribuée à tous les enfants des écoles. Une bande dessinée monstrueuse. Une bande dessinée perverse. Une bande dessinée qui détruit le règne de Dieu dans l'âme des enfants. Une bande dessinée sur la prévention du sida. Qui est de nos enfants? Que vont faire les enfants? Ils vont regarder. Qu'est-ce qui va rester dans leur esprit? Des images. De même que devant la télévision, lorsqu'il y a des images mauvaises, ces images ne disparaissent pas si facilement. Et c'est là qu'il est très important de comprendre pourquoi ces moyens sont si mauvais. Pourquoi ces moyens sont, j'allais dire, contre le règne de notre Seigneur dans l'âme des enfants. Pourquoi ces moyens déforment l'image que les enfants ont reçue au baptême dans leur âme. Parce qu'ils leur donnent autre chose. Ils les conduisent vers le sensible, uniquement le sensible. Et les enfants ont beaucoup plus de peine ensuite à s'élever vers l'intelligence, à s'élever vers la compréhension, à essayer de réfléchir sur la raison pour laquelle nous avons été créés, réfléchir sur les beautés des mystères de Dieu. Et tout cela est venu. C'est là que je vous prie d'avoir beaucoup d'attention. Tout cela est venu. Tout cela est venu pour détruire l'âme des enfants. J'en arrive à la musique. Fidèle, c'est ça du tout. Regardons les enfants. Regardons les enfants actuels. Que font-ils? Ils écoutent de la musique. Quelle musique? Je ne crois pas que ce soit toujours du grégorien, je ne crois pas. Enfin, je vous le demande, peut-être vous pourrez répondre que les enfants, on s'entend, écoutent les chants de Solène, s'extasient sur les différentes cassettes qui leur fournissent les Kyrie et Gloria. Peut-être y en a-t-il qui écoutent de la musique classique, ça arrive plus fréquemment. Je doute que ce soit la majorité des enfants qui fréquentent les collèges. Par contre, ce dont je suis certain, c'est que la majorité des enfants se tournent vers les musiques dites modernes. Les musiques modernes. Les musiques basées sur le rythme. Et là aussi, je vous prie d'avoir beaucoup d'attention, c'est que ça n'est pas innocent. Ça n'est pas innocent. Essayez de faire l'expérience. J'allais dire, je vous mets au défi. On écoute des chants grégoriens, une belle mélodie grégorienne. D'ordinaire, ça apaise l'âme. D'ordinaire, ça élève l'âme. Non seulement d'ordinaire, toujours. À moins qu'on ait une oreille déformée, déjà, ou que l'on soit atteint d'une obscurité précoce, ou que sais-je. La mélodie grégorienne élève l'âme. De même que la musique classique élève l'âme. Que fait la musique moderne? Je parle de musique moderne sans m'arrêter au rock. Là, j'espère que vous êtes bien convaincus. Si vous n'êtes pas, je vous en supplie à corps et à cri de l'être. Toutes ces musiques ne s'adressent qu'à une chose en nous. à la sensibilité. Si vous faites l'expérience, pour vous-même, vous mettez un casque sur les oreilles et vous mettez une musique bien. La première chose qui vous arrivera, c'est peut-être une augmentation du rythme cardiaque. Et puis, mais oui, effectivement, vous serez excité, si, si. C'est bien probable, c'est même certain. À moins que déjà il y ait une accoutumance. Mais c'est ce que constatent les médecins. Il y a tout un effet sur notre organisme simplement sensible. Simplement. Et ces choses-là sont voulues et ne sont pas innocentes. Il y a des quantités d'études qui ont été faites à ce sujet. Je me baserai simplement sur des études qui ne sont pas faites sur l'humain, qui sont faites sur les plantes. Les plantes s'y favorisent beaucoup mieux avec le grégorien et la musique classique avec le rock. Oh, c'est un exemple qui est amusant, mais c'est très vrai. Pour l'homme, il en est encore de même. Plus aigu, ça détruit l'âme des enfants. Fides exorbitants, tous les enfants qui sont des adeptes des musiques modernes ne sont plus réceptifs, je dirais presque, au message évangélique. Je vais peut-être un peu loin, mais je crois que c'est bien le cas. Les concepteurs de cette musique moderne l'ont voulu et le veulent encore. Alors il ne faut pas céder aux idoles du temps. Il ne faut pas vouloir rentrer, je dirais, dans cette machine infernale qui nous est donnée aujourd'hui dans le monde moderne. Il faut en préserver nos enfants. Et là, c'est un devoir important, le droit canon même, et le magistère nous rappelle simplement. Voici ce qu'il dit. Les parents ont la très grave obligation de veiller, selon tout leur pouvoir, à l'éducation tant religieuse et morale que physique et civique de leurs enfants. Ils doivent aussi pourvoir à leur bien corporel. Et c'est là que je quitterai ces considérations un petit peu dures, un petit peu difficiles, pour en arriver quand même à la dernière partie de l'exposé. J'avais dit qu'il y a toujours une solution. Même si la situation est assez difficile, il y a toujours une solution. Et la solution est merveilleuse. Mais il faut vouloir la prendre. C'est comme si on va chez un médecin qui nous fournit une bonne ordonnance et que de cette ordonnance, la première réaction que l'on a, arrivée à la maison, c'est de la mettre consciencieusement dans une enveloppe, puis l'enveloppe la mettre bien fermée dans un buffet et enlever la clé du buffet. L'ordonnance du médecin ne servira à rien. Ce serait dommage. Alors voici ce que dit un religieux de ce siècle qui est décédé en 1974, le révérend père de Chidré, qui a des paroles très intéressantes. Dans un petit opuscule, l'enfant devant la civilisation moderne. Si j'arrive à le retrouver. Veuillez m'excuser, voilà. Et c'est ici qu'il va attirer notre attention. Spontanément, je me tourne vers vos parents. C'était un grand indicateur. Vous suggérant ce qui suit. Ne niez pas le progrès moderne. Va-t-il contredire ce que j'ai dit? J'espère qu'il ne va pas encourager la musique rock ou tout ce que j'ai pu stigmatiser tout à l'heure. Ne niez pas le progrès moderne, mais donnez à vos enfants mieux. Que le progrès, en comprenant que perfectionner un être, c'est avant tout le restaurer dans son intériorité d'homme, dans ce monde secret dans lequel l'enfant élabore ce avec quoi il abordera le progrès pour le juger, pour le gouverner, pour le mesurer, pour le discipliner. C'est toute l'œuvre de l'éducation. Discipliner les mauvaises tendances. Avoir le dessus sur les tentations. Juger ce qui nous est présenté pour discerner le bien du mal. Développer la réflexion de l'enfant au-delà du visible. Il ne faut pas s'arrêter à ce qui est simplement visible. Développer sa réflexion au-delà du visible. Stimuler son caractère au-delà du faible. Éveiller sa conscience au-delà de l'égoïsme. C'est un Français qui parlait et qui s'adresse aux Suisses. Et si, et si. Les Suisses Et ici, il va prendre un exemple qui vous surprendra peut-être. Il prend l'exemple d'une pièce de monnaie. C'est vrai que les Suisses sont connus pour les banques, mais vous allez voir que son exemple est assez intéressant. Les Suisses ont inscrit sur leur pièce de monnaie quelque chose d'intéressant. L'avez-vous déjà remarqué? Moi, je ne l'avais pas remarqué. Je n'avais pas fait attention. Si vous prenez une pièce de 5 francs, si vous avez la curiosité de regarder ce qui est inscrit sur la tranche, vous verrez tout un programme d'éducation. Ici. Et à bon marché. Les Suisses ont inscrit sur leur pièce de monnaie Dominus Providebit. Le Seigneur y pourvoira. Telle est la formule équilibrée de l'éducation chrétienne. D'abord Dieu et ses commandements. D'abord la loi naturelle de l'honneur et du devoir. D'abord la conscience et le sacrifice. D'abord le respect et la politesse. D'abord l'homme complet. Et c'est en rapport avec ce que nous avons dit tout au début. Il faut d'abord être complet, c'est-à-dire renforcer toutes ses facultés, intelligence, volonté, ouvrir l'enfant aux réalités qui vont le conduire à se diriger, j'allais dire presque naturellement, dans le surnaturel. Ça peut paraître paradoxal, mais il faut que l'enfant, parce qu'il est ouvert à ce monde de l'intelligence, puisse recevoir la foi. Car la foi, c'est une vertu purement surnaturelle, mais qui se greffe sur l'intelligence. Donc il faut ouvrir l'intelligence des enfants pour qu'ils demandent, pour qu'ils se posent cette question. Vous me direz qu'ils en posent suffisamment à la maison quand ils sont tout petits. Maman, c'est quoi? Mais c'est quoi? Mais pourquoi? Il faut qu'ils se posent cette question-ci dans l'ordre surnaturel. Vous connaissez certainement aussi l'exemple de Saint Thomas d'Aquin. Il était à l'âge de 5 ans, il avait été mis, non pas contre son gré, dans une école de bénédictins. C'était à l'époque les grands enseignants. Les grands enseignants étaient les ordres religieux. Alors le petit Thomas, à l'époque, était dans ses pouvoirs, à l'école des bénédictins. Et à cette école, eh bien, il méditait, il apprenait, il ouvrait son intelligence aux réalités. Et un jour, le professeur, le père, je ne sais pas comment ce qu'il pouvait s'appeler, peut-être était déjà le père Albert, lui demande, mais à quoi réfléchis-tu? Et le petit bonhomme de 5 ans qui lui demande, qu'est-ce que tu veux? Le bras bénédictin est emprunté pour le dire. Qu'est-ce que Dieu? Un petit enfant, peut-être un petit peu plus long que 3 pommes, demandait déjà ces questions qui sont toute notre vie. Et ça a été sa question fondamentale. Toute l'œuvre qu'il a ensuite, poursuivie et qui a été la substance même de l'enseignement de l'Église est la suite de cette question. Qu'est-ce que Dieu? Qui est le bon Dieu? J'allais dire, si nous la posions tous les jours, nous prendrions la pente ascendante. Qui est Dieu? Pourquoi Dieu? Qu'est-ce que Dieu nous veut? Ce sont des questions que l'on peut éveiller chez les enfants. Si, avant tout, on les ouvre, on leur ouvre l'intelligence, on les ouvre à l'intelligence des choses. Car les choses naturelles parlent de Dieu. Mettez un petit enfant devant une fleur. Si ce petit enfant n'a pas déjà vu la chose à la télévision et qu'il ne vous répond pas, j'ai déjà vu mieux, il s'extasiera devant une petite fleur. Il s'extasiera devant un petit insecte d'un millimètre qui comprend un petit cœur, certainement un appareil digestif, des pattes qui le font se mouvoir, et tout ça parce que mon Dieu y pense, parce que mon Dieu est derrière lui pour le maintenir dans l'être. Le petit enfant, eh bien nécessairement, il sera conduit vers les réalités célestes. Il est bon, mon Dieu. C'est ça le rôle de l'éducation. Ouvrir ces petites intelligences à travers les choses sensibles, hop, aux choses surnaturelles. Et je dis bien ça, je dirais presque que ça vient naturellement. Il y a l'intelligence, mais il y a aussi la volonté. La volonté, elle doit tendre vers le bien. Vous savez, l'expérience, ce n'est pas facile. L'éducation d'un enfant, ça demande sans cesse d'un côté, de l'autre, de les corriger, de les redresser, de temps en temps, de fricoter avec les petits cheveux au-dessus de l'oreille. Bien sûr, parce qu'il ne comprendra pas autrement ce qu'est la loi morale, ce qu'est le bien, ce qu'est le vrai, ce qu'est le bon. Mais il faut justement donner à cette volonté une force. Sans cela, il sera souvent, c'est un petit peu comme un peuplier qui croit, lorsque le peuplier n'a pas de petit tronc, de... Oui, effectivement, il est peut-être à 2 mètres, mais il n'a pas encore un tronc bien large pour lui faire résister au vent, aux tempêtes. Lorsque ce petit frêle arbrisseau est exposé au vent, il va dans tous les sens. Et ça, vous l'avez déjà vu. S'il n'y a pas un tuteur qui lui permet de garder la droite ligne s'élever vers le ciel, il poussera de travers. Et c'est tout à fait naturel. Alors c'est important. Il faut vouloir corriger, redresser, encourager, fortifier la volonté des enfants. Voilà ce que disait le père de Chivré. Il nous donne, en quelque sorte, un petit catéchisme de l'éducation. C'est plus facile quand c'est par question-réponse. Les parents ont la responsabilité du vrai et du bien à faire vivre, à faire vivre et à faire aimer par l'enfant. Ce bien et ce vrai relèvent d'une connaissance raisonnable de la vie que l'enfant est en voie d'acquérir. Que l'enfant est en voie d'acquérir, donc il faut guider, former notre Seigneur dans la maison. Que l'enfant est en voie d'acquérir sans qu'il puisse le vouloir spontanément. L'enfant n'est pas bon spontanément, non. Il faut l'idée. Qu'est-ce que le ciel ? Réponse du père de Chivré. Ça n'était pas une réponse dans les catéchismes. Si vous regardez le catéchisme du diocèse de Sion, je ne parle pas des catéchismes qui s'écrivent à l'heure actuelle, je parle des catéchismes qui avaient encore une doctrine catholique. Qu'est-ce que le ciel ? C'est le pays des biens élevés par les impératifs. De la charité. Qu'est-ce que la grâce ? C'est le retour à la bonne éducation éternelle de soi-même par les impératifs du consentement à cette grâce. Mais la volonté ne pourra pas consentir à la grâce si avant tout, elle n'a pas été formée à recevoir, à obéir, à accepter l'autorité. Qu'est-ce que l'éducation naturelle ? Car il faut une éducation, des vertus simplement naturelles, que sont le courage, que sont les vertus sociales de convivialité, de sociabilité, d'amabilité, de délicatesse, d'ouverture vers les autres, de charité simplement, d'amitié naturelle. Eh bien, qu'est-ce que cette éducation naturelle ? C'est une préparation intérieure à tenter, dans le sens tentation, dans le sens de faire venir, à tenter la grâce. De prendre ses initiatives en nous, à faire en sorte que la grâce de Dieu veuille prendre son empire sur nous. Car l'éducation fait apparaître des vertus naturelles sur lesquelles se greffent les vertus surnaturelles. Alors c'est tout un monde, c'est extraordinaire. Donc il faut avant tout vouloir restaurer dans nos familles, parce que c'est là qu'il faut en venir, il ne faut pas en rester à des abstractions, il faut vouloir restaurer dans nos familles une vie pleinement, foncièrement, résolument et même, ça demande du courage, courageusement, catholique. Catholique. Léon XIII avait une parole importante. Voici ce qu'il dit. Il est toujours nécessaire, il est toutefois nécessaire que cette bonne éducation de la jeunesse pour être une garantie de la vraie foi et de la religion et une sauvegarde de l'intégrité des mœurs commence dans l'intérieur même de la famille. De cette famille qui, malheureusement, troublée dans les temps actuels, ne peut recouvrer sa liberté que par ces lois que le divin auteur lui-même a fixées en instituant la République. Donc vous voyez, l'éducation, et vous le savez bien, commence d'abord par la famille. Donc il faut que la famille soit un temple, fallait presque dire une église, une cathédrale de l'amour divin. Pour ce faire, eh bien, il faut restaurer un climat de vie théologale. Qu'est-ce que cela veut dire ? Fallait dire, c'est bien ça, il faut en revenir à nos promesses du baptême. Nos promesses du baptême, c'est la foi, simplement. La foi, l'espérance et la charité. C'est les premières réponses qu'on a données aux premières questions que posait le prêtre lorsque, pour la première fois, nous avons mis le pied à l'intérieur de l'Église. Qu'est-ce que vous voulez ? La foi. Pourquoi ? parce qu'elle nous donne la vie éternelle. Alors si vous voulez la vie éternelle, observez les commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, et le prochain comme toi-même, pour l'amour de Dieu. Donc il faut réinstaurer dans nos familles ce climat surnaturel. Je dirais presque totalement surnaturel. Il faudrait qu'à l'intérieur de nos familles, les enfants puissent respirer un air de foi, d'espérance et de charité. Un air de vertu théologale. Voici ce que disait l'abbé Berthaud, non pas le chanoine Berthaud, l'abbé Berthaud qui s'était occupé des écoles en France, nombreuses écoles, qui était aussi un grand éducateur. Qu'est-ce que l'éducation chrétienne? Nous avons vu quelle était la foi, qui a commencé par la foi. Bien, il poursuit. L'éducation chrétienne, la pédagogie chrétienne se résume dans l'éducation de la charité. Il dit même, l'éducation chrétienne a pour fin l'amour de Dieu. L'éducation chrétienne a pour point de départ l'amour de Dieu. L'éducation chrétienne a pour loi intérieure l'amour de Dieu. L'éducation chrétienne a pour méthode l'amour de Dieu, la charité. Et si nous avions appris à nos enfants que les vertus véritables sont le visage de la liberté, vertus véritables, c'est-à-dire qui procèdent d'un oubli de soi-même, dans la lumière et dans le temps, donc dans la foi, et que la liberté commence avant les vertus que les hommes voient, avant les vertus qui lui donnent son visage dans le secret du cœur, dans l'oubli de soi-même et dans l'amour. Et bien à ce moment-là, si nous faisons cela, disait l'abbé Berthaud, bien, nous ne perdons pas notre temps. Le père de Suivret poursuivait en disant ces paroles, là où les foyers, et c'est un appel pour nous, là où les foyers ont une foi audacieuse et simple, où tout est référence à la foi catholique absolue, c'est-à-dire où le catéchisme est appris par les enfants et vérifié par maman, où la prière est à l'honneur, où le respect du dimanche est gardé par papa et par maman, où le devoir d'État passe avant l'abusement, là où l'on se tient délibérément loin des vulgarités de la télévision, de l'argent, des loisirs, de la mode, de la publicité, là où les enfants sont à la fois capables de bêtises, mais de les avouer, capables de beaux gestes et de les tenir cachés, eh bien là, Dieu est témoin. Pleurer sur les malheurs du temps est une lâcheté. Si les vaincre n'est pas une méthode. C'est une formule extraordinaire. Pleurer les malheurs du temps. Mais oui, on pourrait se lamenter sur ce qu'on voit à côté de nous, sur ce à quoi nos enfants sont confrontés. Mais ce serait une lâcheté d'en arriver là. Pleurer les malheurs du temps est une lâcheté si les vaincre n'est pas une méthode. Et le rôle de la foi, qu'est-ce que c'est? C'est de changer les temps, quel qu'il soit. Alors, eh bien, il faut restaurer nos familles sans attendre, dès la prime jeunesse. C'est là aussi, comme je vous l'avais dit au début, que je veux me référer au magistère de l'Église, parce que je crois que c'est très important de s'arrêter à ce magistère qui est la parole de Dieu. Voici ce que disait Pie XII. En 1955, il s'adressait à des associations de parents, à des associations d'instituteurs. Pour assurer à l'Église et à la société un avenir plus serein, car c'est là notre but, la restauration du règne social de notre Seigneur, pour assurer à l'Église et à la société un avenir plus serein, rien ne sera peut-être plus décisif et efficace que de se pencher sur les tendres pousses des nouvelles générations, dès leur première enfance, pour orienter leur développement vers le vrai et le bien. Dans les années où s'éveille leur conscience psychologique et morale, où commence à s'esquisser en eux l'éternelle réalité, tandis que les notions de bien et de mal se superposent aux sensations de douceur et d'amertume, de beauté et de laideur, il faut commencer par fixer dans les esprits la véritable vision des choses et la conduite droite des actions. Bien éduquer, c'est surtout prévenir. Même dans le sens d'arriver avant les autres. Qu'est-ce que ça dit? D'arriver avant l'erreur et avant la faute. Et prévenir est certainement plus facile que s'appliquer ensuite à corriger et à remédier. Voyez donc que l'éducation, eh bien, consiste à instaurer dans nos foyers, dans nos écoles, tout d'abord la vie théologale. La vie théologale, qu'est-ce qu'elle aura comme conséquence? La prévention du péché. Si vraiment nous avons cette volonté foncière, enracinée dans notre âme, nos âmes, premièrement, de vouloir ce primat, je dirais, du règne de notre Seigneur dans nos âmes, c'est-à-dire l'attention à la sainteté, eh bien, nous préviendrons nos enfants contre le péché, parce que nous-mêmes donnerons l'exemple de ce refus, de tout ce qui nous entraîne à la tentation, de tout ce qui nous entraîne au péché. Donc il faut restaurer nos familles, restaurer l'enfance dès les tout premiers âges dans cette optique. Et c'est un idéal splendide, c'est ce par quoi poursuit le pape Pie XII. C'est un idéal splendide. Car cet amour est puisé à l'intarissable source du cœur divin. Voilà ce qui vous inspire, ce qui donne à votre œuvre austère une douceur ineffable. L'enfance est l'avenir, et c'est là l'enjeu. C'est un grand enjeu. Si nous arrivons à établir dans nos familles ce règne social de notre Seigneur, ce règne du Saint-Écœur, eh bien nous avons l'avenir. Nous avons Dieu pour l'avenir. C'est bien d'avoir Dieu comme avenir. L'enfance est l'avenir. Avenir menaçant et plein de promesses. Quand l'enfant a un souci envers les deux, il porte en lui, sans le savoir, les germes de toutes les vertus et de tous les vices. Beaucoup de passants se demandent en le voyant que sera cet enfant. Et beaucoup de parents se le demandent. En effet, vous-même, vous avez eu l'occasion de vous poser anxieusement une semblable question. Quel sera son avenir pour lui-même, pour la société, pour l'Église? La question est même devenue pour vous un tourment. Et cet enfant, ces enfants, tous les enfants, vous les avez enfermés dans votre cœur par vos prières. Et vous avez pris la ferme résolution, vous avez promis à Dieu d'en faire les artisans de la restauration sociale en Jésus-Christ. Alors voilà. Voilà l'enjeu vers lequel nous voulons donner toutes nos forces, pour lequel nous voulons consacrer toutes nos forces, former notre Seigneur dans l'âme des enfants. Je vais terminer par toujours quelques paroles du magistère, des paroles très encourageantes et très belles, qui nous montrent, que j'ai fait tout à l'heure allusion, qui nous montrent ce que doivent être nos familles, nos écoles. Et ceci est une grande responsabilité pour nous, éducateurs, pour vous, parents, pour les instituteurs, pour les professeurs. Regardez toujours votre école ou votre maison, si grande et belle ou laide et petite, comme un temple où pénètrent la dignité et la pureté, où la vérité et la droiture occupent les premières places, où resplendit la religion qui élève et qui ennoblit l'esprit en Dieu, un Dieu présent partout de la même manière que dans les mouvements de votre esprit et dans votre cœur, un Dieu qui est présent, qui est scrutateur infaillible de vos pensées, de vos affections, qui doivent être toutes tournées vers le bien et la vertu morale, afin que vous puissiez vous-même devenir les maîtres de ces âmes juvéniles et les conduire vers Dieu. Exquise beauté du maître, de la maîtresse, du papa ou de la maman, qui dès le matin, se sont remplis de Dieu par la prière, par la méditation des choses divines, et qui se sont nourris de la chair de l'agneau immaculé, et ainsi, ardent, rayonnant, vont prendre en main ses intelligences et ses cœurs. Intelligence et volonté. Ses intelligences et ses cœurs de petits baptisés auxquels ils communiquent paternellement et maternellement leur richesse spirituelle. Alors, eh bien, il nous faut tirer des conclusions. Nous avons essayé à travers l'enseignement du magistère, à travers l'enseignement des papes et de ces grands éducateurs qui étaient les pères de Chivré, l'abbé Berthaud. Nous allons essayer de suivre notre Seigneur, comment réinstaurer notre Seigneur dans l'âme des enfants. Eh bien, il faut prendre des résolutions. Parce que si on examine les choses de manière générale, elles ne porteront pas de fruits. Or, je veux revenir sur ce que j'ai stigmatisé tout à l'heure. Vous le voyez de plus en plus. Ici, je m'arrêterai simplement à notre valeur. Vous le voyez de plus en plus, non seulement l'erreur intelligente, hein, donc ce qui s'attaque à l'intelligence, mais ce qui s'attaque à la morale, et partout maintenant dans les rues en Valais, et partout dans les magasins, et partout dans les écoles, rentre dans les familles, et parfois nous y consentons. C'est ce que j'ai stigmatisé tout à l'heure par la télévision, par d'autres revues, etc., qui peuvent se trouver parfois dans notre maison, Mais en tout cas, je reviens à la télévision. Donc ce monde moderne veut arracher les âmes des enfants à Dieu. Alors nous n'avons pas le droit, nous avons le devoir de lutter contre ce complot. Sortir du droit de l'enfer. Ici, je ne veux simplement que rappeler les paroles de Notre-Dame à la Salette. Je pense que vous les connaissez bien dans leur tragique vérification aujourd'hui. Notre-Dame posait une question. Trouvera-t-on encore une âme d'enfant qui soit pure? Trouvera-t-on encore une âme d'enfant qui soit pure? Alors, chers parents, je vous adresse une puissante supplique. Nous voulons, vous voulez, restaurer dans l'âme des enfants. Donc vous voulez préparer à vos enfants un avenir qui soit catholique, pleinement catholique, totalement catholique. Vous le voulez. Vous le voulez de toute votre âme parce que vous ne pouvez pas vouloir autre chose. Si vous voulez autre chose, c'est que vous n'êtes pas catholique. C'est que nous ne sommes pas catholiques si nous voulons autre chose. Donc nous le voulons de toutes nos forces, de toute notre âme. Nous voulons ce feu de la charité dans l'âme des enfants. Alors que nous faut-il? Eh bien, il faut changer, j'allais dire, notre valet. Il faut nous serrer les coudes, j'allais dire. Nous n'avons plus le droit de faire notre lutte chacun pour nous, chacun pour soi. Donc, nous devons lutter tous ensemble. Et j'allais dire presque à la limite que c'est une croisade. Je pourrais ici citer des paroles d'un chaman que vous connaissez peut-être, c'était un chaman fribourgeois, le chaman Chordelet, qui, il y a plus d'un siècle, en 1870, se débattait contre le laïcisme qui envahissait la Suisse. Vous savez qu'à cette époque, c'était la persécution religieuse. Le cardinal Mermio avait été chassé de Genève, l'évêque Mgr Lachat avait été chassé de Bâle, le nonce apostolique avait été mis hors de Suisse, et il y avait une persécution religieuse de l'État contre l'Église. À Berne, on voulait la fin des églises catholiques. Que disait le chanoine Chordelet? Je crois que ça s'applique de manière beaucoup plus aiguë à l'heure actuelle. Il disait tout d'abord ceci, devant cette angoisse qu'avaient les gens. L'heure de la peur est passée. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, j'allais dire que c'est un peu pour nous la même chose. L'heure de la peur est passée. Nous n'avons pas le droit d'avoir peur de ce monde moderne. Il faut dominer les éléments qui nous entourent. Nous n'avons pas le droit d'avoir peur, j'allais dire, ces forces infernales qui sont répandues partout dans la société. Peu importe. Nous devons passer par-dessus, car nous avons Dieu, nous avons la grâce, nous avons la charité, nous avons les vertus théologales. L'heure de la peur est passée, il faut que les catholiques se sentent forts sous l'orage. Il faut qu'ils prennent conscience que leur foi est invincible. Il faut qu'ils servent leur rang, qu'ils tiennent bon. Coup d'un coup, c'est la première tâche. Eh bien, c'est notre première tâche aujourd'hui. Alors, je vous engage, et c'est ici peut-être que je lance peut-être un appel à votre générosité dans un combat qui a des règles. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir des reconstitutions de batailles historiques. Imaginons la bataille de Morgarten, où chacun de ces Suisses au bras noueux, comme aime à les dépeindre les historiens un peu romantiques, ces braves Suisses aux bras lourds, bien musclés, guerre des forces ennemies, on en regarde même. Imaginons-les, combat chacun de son côté. S'il n'y avait pas eu de chef, s'il n'y avait pas eu une concertation des forces, qu'est-ce qui se serait passé? Rien du tout. S'il n'y avait pas eu avant la bataille, je dirais presque un plan d'attaque, donc une formation des combattants, il n'y aurait pas eu de bataille. De même pour la bataille de Loubel, la bataille de Loubel qui était une grande bataille qui a permis, j'allais dire presque, au canton de demeurer catholique, elle a eu un grand impact, il y avait des Valaisans, cette bataille, il reste par les soins de l'association Saint-François Sal, une petite brochure, par les soins de diffusion qui le diffusera. Cette petite brochure montrera que s'il n'y avait pas eu la concertation à cette époque des forces catholiques, nous serions protestants aujourd'hui. Alors aujourd'hui, eh bien, il nous faut, pour éviter à nos enfants de devenir modernistes, de devenir apostats, de devenir infidèles, il nous faut nous concerter. Et alors, si vous le voulez bien, s'il y a des parents qui sont intéressés, c'est ici que je terminerai, j'ai déjà été suffisamment long. S'il y a des parents qui sont intéressés, eh bien, je proposerai des séries de conférences. Justement, de manière plus particulière, nous sommes restés à un sujet très vague, très général, mais de manière plus particulière sur l'éducation. Simplement, à revenir à des données psychologiques. Qu'est-ce que cette nature qui nous est donnée? Qu'est-ce que cette richesse de la nature humaine? Bien souvent, on la méconnaît. On méconnaît la grandeur des passions qui sont en nous, passions bonnes, qui nous permettent de tendre vers la sainteté, et qu'il faut savoir utiliser dans l'éducation. Donc pour cela, il y a des règles, il faut savoir discerner les tempéraments, il faut savoir discerner un petit peu le caractère des enfants, comment lutter contre leur caractère, comment petit à petit les amener à se diriger un petit peu mieux, etc. Il y a des choses admirables qui nous ont été données par nos devanciers, et je crois qu'il serait très intéressant d'étudier. Alors si vous voulez bien, si des familles sont intéressées, si des parents sont intéressés, eh bien je leur adresse ce petit appel, qu'ils veulent bien nous contacter, nous faire signe, nous le dire, à voix haute ou à voix basse, par lettre, je le sais, pour que nous puissions faire un petit programme. Je crois que c'est très important. Nous voulons le règne du Christ roi, il faut prendre les moyens. Et nous devons assurer à ces enfants, à nos enfants, tous ces moyens. Nous n'avons pas le droit de les laisser démunis contre toutes ces forces qui veulent les entraîner hors du règne du Christ au roi. Alors, prions tous ensemble pour que non seulement les âmes de nos enfants soient formées en Jésus-Christ, mais pour que nos âmes le deviennent parce que nous aurons voulu l'instaurer dans nos enfants. C'est par là que je terminerai. S'il y avait des questions, j'essaierai d'y répondre dans la mesure où c'est possible. S'il n'y a pas de questions, bien, je vous invite à terminer par là et à bien prier pour que nous puissions réaliser ce grand dessein, qui est un grand dessein. C'est vraiment la croisade des temps modernes. Nous devons tout faire pour que notre Seigneur règne dans la société.